Voilà, ok. Donc, je trouve où est le micro, c'est tellement petit, voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est l'introduction pour cette série sur la famille à travers la Bible. Et ce que je vais faire, je vais vous donner des exemples, que ce soit des exemples positifs ou des exemples négatifs, au fur et à mesure qu'ils se présentent dans la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons commencer dans la Genèse. Et dans la Genèse, il y a beaucoup d'exemples de familles. Et aussi, je vais rapporter de l'enseignement du Nouveau Testament au fur et à mesure. Et je ne sais pas exactement combien de temps nous allons rester là-dessus, mais parce que c'est un sujet très à propos, à la fois pour nous qui sont les parents, les couples, et pour nos enfants qui... Plusieurs qui deviennent adultes et vont fonder leur famille. Donc, il faut qu'on traite ces sujets. Et la semaine dernière, donc, nous avons parlé dans 2 Timothée chapitre 3. On va retourner là déjà. Il y avait plusieurs fautes dans cette liste des fautes des derniers temps qui concernaient la famille. 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et nous avons dit, chacun devrait se mettre devant ces difficultés pour voir si j'ai un de ces problèmes en moi-même. « Car les hommes seront, il dit, égoïstes. » Alors, les hommes étaient toujours égoïstes. Mais évidemment, ça veut dire égoïste d'une manière particulièrement spéciale, ok? Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautaine, blasphémateur, rebelle à leurs parents. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, je suis dans le verset 2 vers la fin, et il y a la phrase rebelle à leurs parents. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Selon l'ordre de Dieu, et nous allons voir ça tout à l'heure, il y a Dieu qui donne les règles de la vie, l'homme accepte les règles de la vie et il enseigne à sa famille à les mettre en pratique. Donc, les enfants sont obéissants. C'est comme ça. Mais dans les derniers temps, les choses sont bousculées. Et les enfants, au lieu d'être obéissants envers leurs parents, seront rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Le mot insensible, je vous ai dit la dernière fois, c'est sans affection naturelle envers ceux qui sont de la famille. Ça parle de ça, c'est la famille dans le sens biblique du terme. Donc ça comprend aussi les parents, les enfants, les grands-parents et les gens qui peuvent être compris dans ce contexte. Donc on est insensible envers ceux qui sont de la famille. Déloyaux aussi pourrait être, c'est très large l'idée de déloyauté, mais c'est aussi quand il y a la fracture dans la famille et puis le divorce et tout ça, c'est que l'un n'est plus loyal envers l'autre parce qu'on s'est engagé à vie et puis la déloyauté s'installe et puis on va dans nos propres directions, l'un et l'autre. Donc, ce sont quatre points que j'ai récupérés et nous voyons que dans la société, il y a des grands problèmes. Hein, je ne sais plus quelles sont les statistiques dans le monde pour le divorce. Hein? Je ne sais pas. Mais quand nous regardons notre Église, on commence à dire, nos familles sont instables. Est-ce que c'est à 50% déjà? Hein? Alors, si les chrétiens ont des familles instables à 50% ou à 60%, ou je ne sais pas exactement comment chiffrer ça, mais ça ne donne aucune instruction au monde autour de nous. C'est plutôt que nous prenons le modèle sur le monde et dire, voilà, le monde agit comme ça, donc moi, je peux agir comme ça aussi. Et non, parce que nous sommes chrétiens et nous ne vivons pas selon les règles du monde. mais selon les règles de Dieu. Et c'était ça l'optique, l'objectif de ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que nous, les chrétiens, on veut vivre selon la parole de Dieu. Non pas simplement avoir une bonne doctrine, voilà notre théologie qui est correcte, mais aussi, comme en titre, on voit que la doctrine, c'est aussi la pratique. Comment vivre le jour de jour. Et nous voulons que ce jour de jour soit une bonne conduite aussi. Et c'est justement parce que notre Église a de nombreux problèmes familiaux, que je voudrais me reposer sur ce sujet. Donc, si je commence à radoter, il faut avancer maintenant. Hein? Mais je pense qu'on a beaucoup d'instructions qui sont dans la famille et autour de la famille, et c'est beaucoup de la vie se trouve là-dedans. Et beaucoup de nos problèmes aussi. Il va falloir que nous apprenions à surmonter ces problèmes, à vaincre ces problèmes. Et puis, malheureusement, comme on vit les parents, c'est l'exemple pour comment on va vivre les enfants, quand eux, ils sont adultes. Et donc, quand nous avons eu les parents qui nous ont donné des mauvais exemples, il va falloir encore plus travailler pour pouvoir surmonter les difficultés que nous aurons certainement si on ne marche pas dans la volonté de Dieu plus tard. Est-ce que vous me suivez dans cette idée-là? Hein? Malheureusement, ce n'est pas simplement par la prédication qu'on apprend les choses, mais c'est aussi par l'instruction à l'école, je veux dire, ou ici par la prédication, mais c'est aussi par l'exemple. Et c'est pour ça qu'on doit choisir nos amis, parce que nos amis nous donnent l'exemple. Et quand on est avec certains amis, ils nous donnent l'exemple que par la suite, on va suivre cet mauvais exemple et le chrétien va être plutôt puni avant que le monde va être puni. Hein? Donc, attention à notre façon de vivre et les amis que nous choisissons et malheureusement pour les exemples que nous pourrions avoir qui ne sont pas toujours des bons exemples. Donc, commencez en Genèse chapitre 1 et le verset 1. En plus, donc, Étienne, si tu veux distribuer ça. Donc là, c'est une feuille qui comporte un résumé d'une conférence sur la famille que Monsieur et Madame Knickerbocker ont apporté à Argentan. Donc, c'est le résumé et j'ai pensé vous donner ça. C'est pas le message aujourd'hui, mais il y a certainement certains détails qui vont être touchés de temps en temps et je pense que c'est quand même utile. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout doit commencer avec Dieu. Quand nous allons parler de la famille, quand nous allons construire nos familles, nous devons bâtir notre principe sur l'enseignement de Dieu. Alors, il faut savoir qu'il y a des instructions bibliques. Il y a les choses que Dieu dit, il faut faire comme ceci, il ne faut pas faire comme cela. Ça, c'est les instructions bibliques. Et aussi, dans la Bible, il y a ce qu'on va dire, des coutumes diverses. Par exemple, la cérémonie de mariage n'est pas pour nous, dans la Bible, une instruction, la façon que cette cérémonie se passe. Mais on voit beaucoup, plusieurs exemples de mariage dans la Bible. Et donc, ce sont des coutumes diverses, mais d'une manière ou d'une autre, le mariage se fait. Dans notre pays, en ce moment, si on va à l'église et on se marie, eh bien, on n'est pas marié. Parce que le gouvernement n'accepte pas ça. Dans notre pays, en ce moment, eh bien, il faut aller à la mairie. Et c'est le maire ou le représentant de la ville qui est là ce jour-là qui va prononcer que voilà, vous êtes mariés. C'est une question légale. Et si on est chrétienne, probablement on va aussi à l'église et on va se faire marier aussi à l'église. Mais vis-à-vis de l'État, ça n'a aucune valeur. Mais vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ, c'est une grande valeur. Donc j'ai deux mariages déjà. Je suis déjà marié deux fois. Hein? Le vendredi, j'étais marié à la mairie. Et le samedi, j'étais marié à l'église. Deux mariages en deux jours. Donc voilà, l'ordre, c'est que Dieu dit quelque chose. Hein? Dieu dit quelque chose, nous trouvons ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Et l'homme, ou le mari, ou le père, ils se soumettent à l'autorité de Dieu. Il va se soumettre lui-même à Dieu en obéissant. Donc, on voit que déjà, il y a un système d'autorité. Puis, l'homme va ordonner à sa famille, voilà ce que Dieu a dit, il faut que nous fassions comme ça. Donc, il communique cette information. Et chaque membre de la famille, normalement, va dire que voilà ce que Dieu veut de moi et je vais me soumettre à l'autorité de Dieu. Alors, ça, c'est dans le monde idéal. Parce que, combien de monde dans ce monde ne sont même pas chrétiens. Donc, ils ne se soumettent même pas à la parole de Dieu et ils ne peuvent pas communiquer à leurs enfants ce que Dieu veut. Parce qu'ils ne savent pas. Il y a combien? 5 milliards de personnes qui ne connaissent même pas ce qui est la Bible. D'aucune manière, je veux dire. OK? Donc, l'idée, c'est que, je dis dans le sens idéal, Dieu a parlé, l'homme se soumet à son autorité, l'autorité de Dieu, et la famille va aussi se soumettre à l'autorité de Dieu à travers, ou en dépit de l'autorité là du père qui entre Dieu et l'individu. Donc, je donne un exemple. Dieu a donné l'autorité au gouvernement. Et on peut regarder dans Romains chapitre 13 et verset 4. Romains chapitre 13 et verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, il dit ici que Dieu a ordonné le gouvernement, il a carrément établi les magistrats pour punir les malfaiteurs. OK? Ou bien dans Tite chapitre 3, Tite chapitre 3 et le verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, etc., etc. Donc, Dieu donne l'autorité au gouvernement. Qu'est-ce que fait l'homme? L'homme, le mari, le père, il agit selon les lois du pays. Je suis en France, je dois suivre les lois en France. Pourquoi? Parce que je suis citoyen? Non. Parce que je suis chrétien. Je suis chrétien, donc j'obéis au pays, aux lois du pays. Et puis, je dis aux enfants, voilà les lois du pays, il faut obéir. Et les enfants vont dire, ben évidemment, oui, je vais obéir aux lois du pays. Par contre, s'ils disent non, je veux vendre des drogues. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le magistrat, donc la justice, va les mettre en prison. Vous voyez? Et donc, si nous ne suivons pas l'ordre qui est au fond de toute autorité, eh bien, à la fin, nos enfants risquent d'être hors la loi. Et on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on doit travailler sur la question d'autorité. Ça veut dire dans nos vies individuelles. Hein? Respectez l'autorité si vous voulez que vos enfants respectent l'autorité. Si vous agissez comme il n'y avait pas d'autorité, ne soyez pas surpris quand vos enfants agissent comme si vous n'étiez pas l'autorité dans leur vie. parce que vous n'êtes pas. Hein? Vous avez donné l'exemple. Donc, attention. Bon, tout commence avec Dieu. Tournez la page, peut-être. Et donc, on voit dans Genèse chapitre 1, verset 26, que Dieu créa l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et puis il dit, il créa l'homme et la femme. Donc on est créé, Dieu a, donc première chose là, il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image, dans sa ressemblance, et donnant à lui une autorité dans ce monde. Et donc il dit, il va dominer. C'est par l'autorité qu'on va dominer. Mais l'homme devrait se soumettre à Dieu s'il domine par la violence. C'est pas bien. En tuant, en massacrant, c'est pas bien. Dieu a donné un ordre et nous devons nous soumettre à cet ordre, étant enseigné à travers la parole de Dieu dans les questions de conduite individuelle. Sinon, on entre dans la transgression. Alors, l'homme était seul à ce moment-là. Dieu avait fait au début uniquement l'homme. L'homme était seul et au chapitre 2, verset 18, il dit que l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Okay? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme seul, justement, il est égoïste. Il ne s'occupe que de lui-même, généralement. Hein? Et donc, il est vrai que l'homme seul, il est libre et dans sa liberté. Mais la tendance d'un homme libre, c'est qu'il va développer les habitudes très égoïstes. Et justement, j'ai eu un entretien avec un pasteur américain qui a un fils célibataire d'un certain âge. Et il dit, mon fils, il est chrétien, évangélique. Mais il dit, mon fils est la personne la plus égoïste que je connais. Il dit, il n'est pas marié, donc il n'a jamais pu apprendre à partager sa vie avec une autre personne, donc à dire non à soi-même. Et en plus, il dit, il n'a jamais eu d'enfant, donc il n'a pas pu apprendre à avoir des responsabilités envers d'autres personnes. Donc, il ne fait que pour lui-même ce qui lui plaît. Et c'est un chrétien. Je ne faute pas. Hein? Mais je raconte seulement ce que son père m'a dit. On a lu tout à l'heure en 2 Timothée chapitre 3 que les hommes, dans les derniers jours, seront égoïstes. Ben, les hommes étaient toujours égoïstes. Moi, je suis égoïste. Heureusement, ma femme travaille sur moi. c'est pas grave, vous êtes égoïste aussi, n'est-ce pas? Mais là, il dit ça dans un sens encore plus exagéré parce qu'il dit les temps difficiles. Dans les derniers temps, il y a des choses difficiles. Et vraiment, on voit de plus en plus cette attitude que moi, je vis que pour moi. Dans le monde, autour de nous, c'est comme ça. Moi et personne que moi, au travail. Peut-être tu vois ça, Jean-Louis, dans ton... je vais dire dans ton entreprise. Et aussi dans la famille. Moi et personne que moi, je veux vivre pour moi et plaire à moi. Oh oui, on peut faire ça si on est tout seul, comme le célibataire. Mais quand on est en famille, ça veut dire qu'on doit partager, qu'on a des responsabilités, qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Hein? Donc voilà. Ne soyez pas égoïste. N'est-ce pas? Il faut travailler sur ça. Parce que c'est en nous, hein? C'est en nous d'être égoïste. Donc, il faut travailler sur ça. Et puis, donc, dans chapitre 1, verset 27, il a dit, et j'ai déjà lu, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa la femme. Et dans ce verset, on constate l'égalité. L'égalité de l'homme et la femme. Dans l'ordre de la création, on parle de la situation idéale. Et l'homme et la femme étaient créés. Et il dit dans le verset 28, Dieu les a bénis. Dieu les bénit. Donc, au début, il n'y avait pas encore de problème. On commence avec le problème la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle de bonnes choses. On parle de l'introduction du sujet. La femme, au verset 2, chapitre 2, verset 28, on a lu déjà, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme est la contrepartie de l'homme. Elle est la partie complémentaire de l'homme. Comme dit le verset, elle est une aide semblable à lui. Donc, il y a un cheminement que Dieu fait. On est hors temps dans Genèse chapitre 1 et 2, jusqu'en chapitre 3, on est hors temps. Mon optique, c'est que Dieu ne compte pas le temps aussi longtemps qu'il n'y a pas de péché. Et quand le péché est arrivé, ça veut dire que la mort allait survenir, et donc on commence à compter les jours jusqu'à la mort. Et donc le temps, c'est le temps qui, c'est l'espace de temps qui passe depuis tel moment jusqu'à la naissance, jusqu'à la mort de l'individu. C'est ça la question du temps. Et donc Dieu fait passer tous les animaux devant Adam, et Adam constate que tout vient en couple. Tout vient en couple. Tout vient en couple. Eh bien, moi je suis seul. Et donc, quand il a bien appris la leçon, Dieu a fait la femme. Et c'est drôle parce que, j'ai pas marqué ça, c'est au verset 23, et quand Dieu amène la femme qu'il a créée à Adam, verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on pourrait paraphraser en disant, oh voilà, enfin, parce que Dieu, il a fait la femme parfaite pour Adam. Il n'a pas demandé qu'elle change de couleur de ses cheveux, ou qu'elle soit d'une autre race, ou je ne sais pas quoi. Hein? C'était ça. Et cette expression-là, c'est un peu plus comme, oh là là, hein, voici la chose qu'il attendait de la part de Dieu parce qu'il avait appris qu'il manquait quelque chose. Son contrepartie. Et maintenant, son contrepartie est là. OK? Et elle est une aide. Une aide. Souvent, dans le mariage, enfin, l'un et l'autre ne sont pas du tout les aides. Ils sont les piqûres l'un pour l'autre. Hein? Mais ça ne doit pas être comme ça. On doit être aide. On doit aider. C'est s'entraider. Et donc, Dieu les met ensemble et on a le couple. Et le couple, donc, c'est l'homme et la femme qui se complémentent ou qui se complètent. Et je parle toujours dans l'idéal. Donc, dans ce couple, on a une relation bénéfique. On cherche le bien l'un de l'autre. Et je sais, dans plusieurs de nos foyers, eh bien, on... au moins une des personnes, et peut-être des fois deux personnes, ne cherchent pas le bien de l'autre personne, mais plutôt le mal de l'autre personne. Mais on n'a pas le droit à chercher le mal. On n'a pas le droit à chercher le mal. On a le droit à chercher le bien. On a le devoir de chercher le bien de l'autre personne. Et donc, le mariage, le couple, est une relation bénéfique. Béné, c'est le mot bien, bon, ok? Bénéfique. Aussi une relation émotionnelle. Et c'est très émotionnel des fois. Hein? Et quand ça ne va pas, hein, c'est vraiment la relation qui peut déraper dans le pire des sens. À cause de ces émotions qui sont dans la relation d'un couple. Hein? c'est aussi une relation physique. Beaucoup de mariages sont physiques, à partir de dormir et manger et toucher et toutes les choses. Parce que la vie est physique. Mais c'est aussi une relation spirituelle. Parce qu'on va prier ensemble, on va au culte ensemble, on va s'entraider à comprendre la parole de Dieu ensemble. Et évidemment, c'est une relation sexuelle. Et c'est de là que viennent les enfants. Donc, ça fait partie de ce que Dieu a créé. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, et versets 33 et 34. Premier épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 33 et 34. Donc c'est tout un chapitre qui parle du mariage et je entre dans la conversation, le verset 23. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Alors aux hommes, si vous ne faites aucun effort pour savoir comment plaire à votre femme, vous faites une erreur. Parce que c'est ça l'enseignement ici. Si vous êtes marié, il faut être un peu moins spirituel et un peu plus humain. C'est ça le verset 33. Vous vous êtes engagé envers cette dame, elle vous a accepté, il faut apprendre à plaire à votre femme. Et au verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et donc, il enseigne la même chose aux femmes. Les femmes ont le devoir de faire un effort de savoir comment plaire à leur mari. Et ça fait partie de cette relation bénéfique, de cette relation émotionnelle, de cette relation physique, aussi la relation spirituelle, mais aussi la relation sexuelle. Ça fait partie de tout ça. Il faut savoir plaire au conjoint que Dieu nous a donné. Et donc, par la suite, il dit dans le verset 28, chapitre 1, verset 28, comme j'ai déjà mentionné ça déjà, Dieu les bénit. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se muent sur la terre, etc. Et donc on voit encore que la sexualité a été créée par Dieu. On a cette optique. À plusieurs personnes françaises, des francophones, m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être chrétiens parce qu'ils voulaient avoir une vie sexuelle. Comme avoir une vie sexuelle, c'est quelque chose de non humain. Ben, évidemment, les chrétiens ont les enfants. Comment avoir les enfants sans les relations sexuelles? C'est obligatoire. La sexualité a été créée par Dieu. Il a créé l'homme, un sexe, et la femme. L'autre sexe. Ben, il a fait ça à travers la création. Ça fait partie de l'ordre de la création. Et Dieu a créé donc les besoins et les désirs chez l'homme dont la femme les satisfait. C'est elle qui satisfait les désirs de l'homme parce que c'est l'aide semblable, c'est la contrepartie, c'est le complément. Et Dieu a créé la femme avec certains désirs et besoin, et c'est le contrepartie, c'est l'homme qui satisfait ces choses-là aussi. C'est dans l'ordre créationnel que Dieu a fait, et ça avant que le péché existe. Ça n'a rien à voir avec la question du péché. Par contre, attention, c'était dans l'image et la ressemblance de Dieu que Dieu nous a créé. Et donc, nous sommes des êtres moraux. Et c'est là que vient la question du péché. Parce que Dieu nous a créé les êtres, on va dire pour l'instant, les êtres sexuels, mais la La sexualité doit être satisfaite selon l'ordre que Dieu a établi, ça veut dire selon la moralité, ou si vous voulez, en mariage. Vous voyez? Et uniquement dans le mariage. Et évidemment, le résultat, c'est les enfants. Et voilà, vous avez une famille. Parce qu'avant, donc on n'a que l'homme seul célibataire qui trouve donc mademoiselle parfaite, donc un couple. Et un couple va devenir, tôt ou tard, selon la bénédiction de Dieu, une famille. Hein? Une famille, donc, nécessite des responsabilités. Je pense qu'on devrait voir la famille comme une entreprise. Okay? Et je vais vous donner une meilleure définition de la famille la prochaine fois. Mais comme une entreprise, il y a des responsabilités. Il faut de l'organisation. Il faut des rôles dans la famille. Et il faut aussi des finances dans la famille. Hein? Donc, la responsabilité, c'est, je vais dire, les devoirs. L'organisation, donc, c'est question d'autorité. Comment ça va être géré? Les rôles, qui va remplir quelle fonction? Et les finances, c'est la stabilité. Parce que quand les finances ne sont pas là, tout est chamboulé. Hein? Et ça, c'est dommage. Hein? Mais des fois, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais toutes ces choses sont nécessaires dans une famille. Et puis, la famille va pourvoir pour certaines choses. La famille va pourvoir, par exemple, l'adoration de Dieu. Hein? Parce qu'on a vu, ça la semaine dernière aussi. C'est, premièrement, l'individu devant Dieu. Et c'est moi. Et c'est moi et ma femme, parce que je suis marié. Et puis c'est moi et mes enfants devant Dieu, parce que j'ai une famille. Et je vais mener ma famille devant Dieu dans le culte. Hein? Est-ce qu'Abraham allait à l'église baptiste? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait, Abraham? Je me posais cette question quand j'étais jeune. Hein? Il n'avait pas de Walkman. Il n'avait pas de musique rock'n'roll. Qu'est-ce qu'il faisait pour le culte? Comment pouvait-il plaire à Dieu? Hein? Ben, il faisait ça en famille. Et quand on parle de famille, on parle de tout le monde, là, qui était sous son autorité. La famille pourvoir pour l'éducation de l'enfant. C'est vrai que nous allons envoyer, nous envoyons nos enfants à l'école. Et c'est vrai qu'en France, on dit, voilà, l'école, c'est le gouvernement qui gère les enfants. Mais attention, vos enfants sont à vous. Et ils ne sont pas au gouvernement. Vous êtes responsable devant Dieu. Peut-être devant le gouvernement, vous avez certaines responsabilités, d'accord. Mais devant Dieu, vous êtes responsable pour vos enfants. C'est vous qui choisissez. Et nous avons eu l'expérience à Argentan de voir que même l'école doit céder à la volonté des parents dans plusieurs circonstances. Heureusement. Hein? Donc, n'ayez pas peur de l'école si vous avez des enfants, n'est-ce pas? Mais à la fin, c'est les parents qui sont responsables de l'éducation des enfants. Et ça peut aussi être dans le sens social, dans le sens de métier, dans le sens des traditions à communiquer à nos enfants. Parce que là, je parle de ce qui est biblique, et là, on parle de combien de milliers d'années, des différences culturelles et tout ça. Il n'y avait pas toujours l'école locale. Mais c'était le papa qui apprenait, donc lui était forgeron, donc il a appris à son enfant d'être forgeron, etc. Hein? Donc ça dépend des circonstances, mais il faut communiquer. Il faut communiquer aux enfants ce qui est acceptable et non pas acceptable. Il faut communiquer dans cette éducation aux garçons de respecter les filles. Et aux filles, de ne pas prendre avantage de ce respect, comme les garçons disent, bah, quand on va au sport, à l'école, on ne peut pas jouer trop, fort contre les filles, mais les filles peuvent nous donner des coups de pied, des frais. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est prendre l'avantage, là. Donc, voilà, il faut apprendre aux enfants comment gérer ces choses, parce que, justement, les enfants vont être le fruit de notre vie. Et ils vont grandir. C'est vrai que ça prend longtemps toutes ces années. Il faut attendre. Et puis, ils vont par la suite prendre une femme ou un homme et ils vont avoir des enfants. Et est-ce qu'on veut qu'ils soient les païens? Est-ce qu'on veut qu'ils battent leur femme ou que la femme est adultère, etc.? On ne veut pas ça. Donc, il faut apprendre à nos enfants comment gérer la vie et comment être. Et à la fin, la famille pourvoir pour l'affection humaine. L'affection humaine, je veux dire, le soutien moral, le soutien que l'homme et la femme ont entre eux, dans les circonstances, et l'homme, moi, hein, je vais me plaindre à ma femme, je vais me plaindre à ma femme, « Oh, mais c'est, voici ce qui s'est arrivé. » Ah oui, Billy, mais tu sais, nanana, mais... On va traiter les sujets ensemble. Mais aussi mes enfants. Quelqu'un a traité un de mes enfants mal. Donc je vais l'encourager. Je vais dire, oh ben, si ça arrive encore, je viens donner un coup de poing. Là. Je vais régler l'affaire moi-même, si tu ne peux pas le faire. Hein? Mais ils ont besoin de ce soutien. Nous avons besoin de notre famille pour nous épauler dans les diverses circonstances négatives, et aussi quand il y a une bonne chose, une Étienne ou qu'est-ce que c'est avec avant de mention, je dois la féliciter, hein, et je dois dire à vous-même à tout moment, hein, oh, je suis fier de mon fils, parce qu'on a besoin de ce soutien moral, hein. Et puis à la fin, dans l'affection humaine, la famille peut voir aussi pour la correction ou la discipline. La discipline. Hein? Quand mon enfant ne fait pas ce qu'il doit faire, eh bien, il faut que je m'occupe de cette question. Parce que, comme j'ai dit, nous voulons élever, et quand vous vous mariez, vous vous engagez devant votre gouvernement, d'élever les enfants qui sont des bons citoyens. On veut que nos enfants soient des bons citoyens. Ça veut dire qu'ils vont respecter les lois. Mais si on a un problème d'autorité dans notre famille, et en dehors de notre famille aussi, mais si on se permet d'être sans loi, parce que je perds le mot, si on se permet d'être sans loi, sans autorité, à tout chambouler dans la vie, eh bien nos enfants vont devenir des prochains hors la loi. Et bon, je ne veux pas de ça chez nous, mais c'est le problème qu'on voit dans le monde. Sophie m'a dit aux informations, deux enfants de 16 ans à deux écoles différentes, ou non, la même école, mais de deux circonstances différentes, je ne sais pas, ils ont tiré sur les enfants. C'était même pas les un qui était chez lui, n'avait rien à faire, donc il a à travers, dans un collège, et puis un autre, il est venu à l'école, et puis il est venu avec un pistolet, avec son copain, il dit, je peux tirer sur les enfants. Non, tu peux pas, bien sûr que je peux. Et puis, il tire sur les enfants. C'était tout gratuit. Pourquoi? Parce que ces enfants ne sont pas bien élevés, tout simplement. Hein? Et on veut que nos enfants soient bien élevés. Devant Dieu! Devant Dieu. Donc, Dieu a créé l'homme, la femme et l'idée, la famille. Hein? Dieu a créé tout ça. Êtes-vous prêt à vous soumettre à ses instructions, pas mes instructions, mais aux instructions de Dieu vis-à-vis de la famille? Là, aujourd'hui, j'ai parlé de la situation idéale. Je pense que vous, comme moi, vous ne vivez pas dans une famille idéale. Hein? Hein? Amen, hein? Non, parce que c'est la réalité de la vie. On n'habite pas en Genèse chapitre 1. Nous sommes combien de milliers d'années plus tard. Il y a pas mal de problèmes. Et vous avez certainement vos conflits dans votre famille. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on va travailler sur la question de la famille pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer nos problèmes. Hein? Mais au fur et à mesure qu'on trouve des réponses, est-ce que vous les accepterez? Est-ce que vous allez les appliquer? Vous allez faire l'effort pour avancer dans votre marche, dans vos démarches avec Dieu et vos plus proches voisins, c'est-à-dire votre famille? Hein? Donc, on s'arrête là aujourd'hui et on va voir la racine des problèmes la semaine prochaine. Et des fois, je passerai tout le temps sur une famille. Et d'autres fois, on ne va pas savoir beaucoup sur une famille, mais on voit leur faute, donc on va voir la faute rapidement. OK? Et on fera au fur et à mesure ce genre de choses afin de vous aider et nous aider à progresser. Et n'hésitez pas à inviter vos amis à venir, surtout s'ils sont des jeunes qui vont se marier ou s'ils ont déjà une famille et peuvent bénéficier de ces interrogations-là sur la famille. Hein, n'hésitez pas à inviter vos amis. Prions. Père Céleste, merci pour cette journée. Merci pour cette parole sur la famille. Et nous savons ce que tu as voulu. Mais c'est vrai que nous n'expérimentons pas très souvent les bénédictions que tu as voulu à travers la famille. Mais je suis persuadé, Seigneur, que tu peux nous aider. Donc, Seigneur, que tu nous diriges et tu nous aides, tu nous bénis, comme il est marqué dans chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Et que tu nous bénis pour que nos familles soient heureux. Et Seigneur, là où il y a des douleurs, des larmes et des pleurs, des difficultés, Seigneur, que tu ramènes cette flamme qui était peut-être éteinte et que tu travailles sur l'individu, l'homme, la femme et les enfants pour que chacun puisse être entretenir une relation bénéfique avec l'époux, l'épouse ou avec les enfants, les parents. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour ceux qui veulent vous rester, hein, il n'y a pas des frais sur ce repas, n'est-ce pas? C'est simplement rester, je ne sais pas, les gars vont vous dire ce qu'il faut faire. Pour le reste, donc, si vous pouvez revenir, vous êtes bienvenus. Venez avant 3 heures au cas où M. Rico arrive avant 3 heures, OK? Que vous ne ratez rien. Et donc, autrement, donc, je te ramène, John. Jean-Pierre, oui, voilà.